dans le deuxième livre de Samuel, et au chapitre premier, on va lire un texte qui laisse un peu, qui va nous faire réfléchir. 2 Samuel, donc 2 Samuel, c'est après 1 Samuel, vous le savez, et au chapitre premier, et voici ce qui nous est dit au verset 17. C'est un chant, c'est un cantique très poignant de la part de David. Et voilà, les premiers versets nous disent un petit peu le contexte. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna. Alors, excusez-moi, j'ai un problème là de. Aux enfants d'Israël, d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait plus sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été épargnés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Amen. Voilà, c'est un cantique qui est un chant funèbre, nous venons de le lire, extrêmement poignant, et qui commémore la mort de Saül et de Jonathan. Et il y a une question qui taraude. Eh bien, David, qui fuyait devant Saül. Petite remarque, vous remarquez que malgré le fait que Saül, est mort et que il soit libéré de la main de son ennemi, David voit les choses dans un contexte spirituel. Il y avait un contexte extrêmement dur, mais lui, il peut pas se réjouir de ce que le roi d'Israël, non pas que certainement il ait une affection particulière pour Saül, mais c'est par rapport au peuple de Dieu, c'est par rapport au plan de Dieu. Et il y a une question qui le taraude. Comment se fait-il qu'un homme qui a été choisi par Dieu, parce que Saül, c'était quand même loin de l'Éternel, celui qui avait reçu l'onction, loin, c'est ça ce que ça veut dire, et celui qui a été choisi par Dieu, comment est-il tombé, ainsi que Jonathan, comment sont-ils tombés devant leurs ennemis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la question est là, et elle est un peu le titre de ce message, mais comment des héros sont-ils tombés? Comment c'est possible? D'autant que nous qui sommes au Seigneur, qui marchons avec Jésus, on sait bien que l'Écriture nous donne des promesses formidables. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pas normal qu'un homme de Dieu tombe. C'est pas normal, qu'un chrétien chancelle et soit, dans la défaite. Cependant, on veut se souvenir que quand même l'Écriture nous annonce que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Ça veut dire que. Et on se souvient également que la Bible nous enseigne que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Ça veut dire qu'on doit être vigilant et que certainement, il y a dans ce récit, il y a dans cet épisode terrible, de l'histoire d'Israël, un enseignement pour nous, disant, mais Seigneur, si eux sont tombés, moi qui veux marcher avec toi, Seigneur, je dois me méfier parce que être vigilant. Parce que si ça leur est arrivé, je ne suis pas plus fort qu'eux, pas plus grand qu'eux. Et je peux tomber également. Donc, il y a un indice quand même qui nous est donné dans ce texte. Moi, je le prends comme un indice, vous voyez. Vous avez remarqué que dans ce cantique, on va le voir dans un instant, il est fait mention d'armes. On nous parle du bouclier, on nous parle d'épée, on nous parle d'arc. Voilà l'arc de Jonathan. Et vous avez remarqué que concernant eh bien, le bouclier de Saül, il nous est dit ceci. Alors, ils ont été jetés, bien sûr, les boucliers des héros, le bouclier de Saül. Il nous est dit ceci. L'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de les oindre. Et certainement, il y a une clé là pour comprendre eh bien, la défaite eh bien, de Saül. Eh bien, c'est certainement à ce niveau-là qu'il faut eh bien, chercher, parce que l'huile parle toujours eh bien, de l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y aurait pas eh bien, ici l'image d'une vie spirituelle eh bien, qui n'était plus entretenue, eh bien, d'hommes qui ne veillaient plus sur leur relation avec le Seigneur comme ils auraient dû? Et on le sait quand même que Saül... L'Écriture nous dit justement que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Alors, on comprend une chose pour nous aussi, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin de veiller sur notre niveau d'huile. Est-ce que l'huile moins toujours? Est-ce que mes armes, est-ce que je possède les armes spirituelles que Dieu me donne? Et je voudrais nous adresser un message à chacun d'entre nous. Est-ce que nous veillons, est-ce que nous prions pour être des hommes et des femmes eh bien, qui sont armés? C'est ce que nous allons considérer, les armes, des armes spirituelles, des armes qui ont été délaissées, des armes qui ont besoin d'être entretenues pour être des armes efficaces. Des armes efficaces. Et c'est vrai qu'il faut partir d'un constat que eh bien, nous avons besoin d'armes spirituelles. Le cantique de l'arc, voilà, dont nous avons lu, il parle d'armes, je voulais noter. Mais je voudrais vous dire ce que ce langage, même si il peut paraître surprenant, on dit, mes frères, c'est l'Ancien Testament, il y a des frondes, il y a des pierres, ça vole de tous côtés, on coupe la tête des géants, voilà, ok, d'accord. Mais je voudrais vous dire que les chrétiens du Nouveau Testament étaient affermis dans cette idée. C'est pas quelque chose de nouveau pour les premiers chrétiens d'être des hommes et des femmes qui ont besoin d'être spirituellement armés. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin, eh bien, peut-être de revenir à l'importance, eh bien, d'avoir une vie spirituelle en bonne santé, d'avoir cette onction sur nos vies qui va nous garder et nous protéger. Vous savez que les premiers chrétiens, ben justement, ils ont été appelés des chrétiens. Chrétien, ça vient de Christ, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux qui sont oints. Et nous apercevons que l'Écriture parle d'une action intense du Saint-Esprit eh bien, à la naissance de l'Église et dès le commencement et dans la suite. Lorsque nous voyons, par exemple, dans Actes 4, Pierre qui résiste au Sanhédrin, un tribunal juif qui veut les empêcher de proclamer le nom de Jésus, il nous est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, alléluia. Il va prêcher avec assurance, il n'y a de sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus, alléluia. L'Écriture nous dit, ils furent troublés, l'Écriture étonnée par l'assurance de Pierre, et la Bible nous dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ils savaient qu'ils avaient besoin de l'action du Saint-Esprit pour tenir bon. L'Écriture nous parle également de Paul dans Acte, alors cela c'est dans Acte 13, face à un certain Bar Jésus qui est en train de détourner un homme de la foi en Christ, mais voilà, il y voit clairement. Il y voit juste, tu n'étais pas un serviteur de Dieu, mais tu es le fils du diable. Donc, nous voyons que l'Écriture eh bien, insiste sur le fait que les chrétiens que nous sommes pour servir, pour témoigner, pour marcher avec Dieu, ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Parce que qu'on le veuille pas, la vie chrétienne, c'est un combat et c'est une bataille. Moi, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et je voudrais vous dire que j'aimerais avoir ma guitare, me trouver dans les champs. On prend des photos, vous savez, un peu avec les tons pastels, doux. Il y a des brebis derrière. Gloire à Dieu. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Les pilars, elles rigolent. À la paillade, c'est pas ça la vie chrétienne. Si tu joues de la guitare comme ça, tu vas te la faire voler, ta guitare. Et rapidement, hein. Et ouais, c'est pas ça la vie chrétienne. Hein. On aimerait que, ah Seigneur, tu m'as rempli du Saint-Esprit, je suis heureux, mes péchés sont pardonnés, c'est merveilleux, tu es un Dieu d'amour, et tu vas au bureau comme ça, et là, non, ça va pas le faire. Hein. Et l'Écriture nous dit, c'est pour cela, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On va y revenir dans un instant, mais et peut-être je vais le dire tout de suite, on a des adversaires. Et je voudrais dire à vous qui avez des positions dans l'Église, pas des positions pour essayer de... Il n'y a pas de position de domination. On est tous dans des positions de soumission. On se soumet les uns aux autres et on est serviteurs les uns des autres. C'est ça la règle de l'Église. Et le plus grand milieu de nous, c'est celui qui sert. Et le plus petit, c'est celui-là qui est le plus grand au milieu de nous. Alléluia. Et on veut garder toutes ces choses. Mais je voudrais vous dire, toi qui est chantre, qui est musicien, qui est pasteur, qui est mono, qui est conseil spirituel, administration, veille sur ta vie. Parce que tu es une cible. Et si tu n'es pas armé, si tu ne te rends pas compte que tu es dans un combat spirituel, mais sache que tu es une cible de choix pour l'adversaire, eh bien de ton âme. Les premiers chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit, et je voudrais vous dire ceci, c'est que lorsqu'un chrétien, dans la Bible et dans le Nouveau Testament, n'était pas rempli du Saint-Esprit, c'était une anomalie. C'était même pas possible. Je relisais cela dans Actes au chapitre 19, lorsque Paul se trouve à Éphèse, il y a environ une douzaine de chrétiens qui sont là, ou de disciples, il nous est dit. Et la question que Paul pose, il ne leur dit pas quel est le pasteur qui vous a baptisé ou quoi, ou ceci. Il leur dit ceci, il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Vous avez cru au Seigneur Jésus ? Oui. Vous croyez qu'il est mort pour vous ? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez les armes pour résister ? Contre les fausses doctrines, contre les séductions. Est-ce que vous êtes en mesure de vous battre pour votre foi ? On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. J'ai l'impression que Paul, il ouvre des yeux comme ça. Comment c'est pas possible ça ? Alors, mais de quel baptême vous avez été baptisé ? Ah ben nous, on a été baptisé du baptême de Jean-Baptiste. Ouais, mais Jean-Baptiste, il est mort. Hein. Et puis, il annonçait Jésus qui est venu. Mais Jésus est venu déjà. Alors, sur ces mots, il les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia ! Et il prie pour eux. Et le Saint-Esprit descend, les remplit, et les voici qui parlent en langue, ils prophétisent, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, tout change à Éphèse. L'Écriture va nous dit que à partir de ce pôle-là, de cette ville, mais l'Église va avoir, l'Évangile va avoir une résonance extraordinaire dans toute cette région de l'Asie, de telle sorte qu'il y ait la Bible nous insiste en disant ceci dans Actes au chapitre 19 et au verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'action du Saint-Esprit. Amen. Non pas l'action des hommes, l'intelligence des hommes, non pas la puissance des hommes, mais rempli, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Et le but du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire ceci, tu peux avoir la meilleure volonté, tu peux avoir les meilleures motivations, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu vas être faible. C'est le Saint-Esprit qui va te communiquer cette puissance. C'est le Saint-Esprit qui va te communiquer cette sagesse, qui va te communiquer cette autorité, ce discernement. Alléluia ! Tu en as besoin en tant que parent pour savoir ce qui se passe sur le téléphone de ton fils ou de ta fille. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit et de prier le Seigneur chaque jour quand tu vas au travail pour savoir que, et ça m'est arrivé, que dans ton dos, il y a des trucs qui vont se faire pour te savonner la planche et que tu tombes. Mais si le Seigneur te prévient avant, un homme averti en vaut deux. Alléluia. Et il te donne de l'intelligence. Alléluia. Mais ça, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui te fortifie pour résister au péché. Parce que quand même, on a une nature qui est toujours là, oui ou non ? Votre nature, elle ne vous joue pas des tours à vous ? Moi, ma nature, elle est là. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, mais pour que je ne reste pas crucifié, simplement que... Mais oui, je reste crucifié, mais pour aussi qu'il y ait vie, j'ai besoin du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Et nous avons besoin de tout cela, et chers frères, chères sœurs, ce n'est pas une dimension religieuse que nous prêchons, mais une dimension spirituelle, alléluia, où le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et nous le communique, amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, pour vous rappeler combien cette chose est importante, Tout à l'heure, je disais que ne pas être rempli du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'était une anomalie. C'était pas normal. Et je pense que tous les chrétiens dans le Nouveau Testament étaient baptisés du Saint-Esprit. Il y avait l'exercice des dons spirituels, il y avait vraiment l'action du Saint-Esprit. Et voici ce que l'apôtre Paul dira aux Éphésiens. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, il y a une traduction qui s'appelle « Parole de vie », qui est un peu plus simple au niveau des mots. Hein, Pilar et Colette, hein, vous allez le lire maintenant comme ça. Où nous est dit, eh bien, béni soit le Père de ce que, eh bien, par le Saint-Esprit, nous communique toutes les bénédictions qui sont auprès du Père dans les lieux célestes. Il nous les communique à nous qui sommes sur la terre. Alléluia. Mais ça transforme la vie d'un homme, ça. Ça transforme la vie d'une femme, ça, d'un jeune homme, d'une jeune femme. Mais il n'est plus en position de vaincu, mais il est en position de vainqueur si il veille à l'entretien de ses armes. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez fait le service militaire. Je ne sais pas si au Brésil, on fait le service militaire. Voilà. Alors, et les dames, elles me disent non. Voilà. J'ai vu Dimitri tout à l'heure. L'entretien des armes. Ça, c'est quelque chose d'important, oui ou non? C'est primordial, hein? Alors, je vais vous dire une chose. Dimitri, pardon, j'étais exempté. Alors voilà, le Seigneur. Bon, voilà, c'était d'autres temps, voilà, hein, voilà. Mais on m'a dit que un soldat devait même réussir à remonter son arme les yeux bandés. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'était arrivé qu'une fois. Bon, voilà. En tout cas, quotidiennement, il faut démonter, remonter son arme. Il faut l'entretenir pour qu'elle ne soit pas grippée. Et je voudrais vous dire ceci, et je le rappelle, mais allez, Éphésiens 6 nous dit ceci, nous n'avons pas, eh bien vous connaissez verset 12, à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Ça existe. On ne veut pas tout expliquer en disant que c'est le diable, mais attention de ne pas évacuer le diable, eh bien de toutes les attaques qu'on peut recevoir. Il existe. Eh oui. Dans nos pensées, parfois même au travers d'un personnage qui surgit, on ne sait pas où, et qui est rempli d'une espèce de haine à notre égard, ou qui vit, voilà. Et notre chair aussi, dans Jean au chapitre 3, le Seigneur, Jean-Baptiste dira, eh bien, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et je crois que vraiment la vie de l'esprit, elle se fait au détriment de la chair. Et la vie de la chair, elle se fait au détriment de la vie de l'esprit. Si tu veux que ce soit ta volonté qui s'accomplissent dans ta vie, si tu veux être géré par tes propres sentiments, tu ne vas pas vivre grand-chose spirituellement. Mais si tu veux grandir, vivre de belles choses avec le Saint-Esprit, être un instrument entre les mains du Seigneur, il va falloir que tu renonces à toi-même. Il va falloir que tu dises « non, pas ma volonté ». C'est dur, hein, de dire « non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Pourtant, Seigneur, je le veux. Je le veux, Seigneur. Je vais lui dire les quatre vérités, lui mettre les points sur les i, je le veux, je vais le faire. La Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'apôtre Paul enfonce le clou en disant, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est fort ça. C'est Jésus qui règne. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et comment ça se vit? Mais par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, que tu veux plaire à Dieu, mais tu vas avoir une tête d'enterrement. Tu vas être triste, tu vas être malheureux. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu vas porter du fruit. C'est-à-dire, mais je plais au Seigneur. Alléluia. Tu vas être réjoui. Et tout cela, eh bien, pour résister également à l'esprit de ce monde. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses qui seraient à dire. Et le Seigneur, eh bien, est vraiment le modèle. Eh bien, qui concerne eh bien, la vie d'un homme conduit par le Saint-Esprit qui possède les armes pour résister au péché, aux fausses doctrines, voire même à l'orgueil. Mais je voudrais juste m'intéresser au cas de Saül qui a perdu l'onction. Pourtant, il avait bien commencé. L'Écriture nous dit qu'il avait été choisi par Samuel de la part de Dieu. Il avait reçu l'onction. Il était petit à ses propres yeux. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il a nourri son cœur d'orgueil. Et il a voulu se servir eh bien, de la place que Dieu lui avait donnée, non pas pour servir le Seigneur, mais pour se servir lui-même. Comme si, par exemple, eh bien, un pasteur se servait de cette estrade eh bien, pour parler de lui, de lui, de lui, de lui. D'ailleurs, lorsque vous regardez une émission sur Internet, une prédication ou je ne sais quoi, faites attention à ce que vous voyez. Et si vous entendez, si vous considérez que ce prédicateur parle beaucoup trop de lui et peu de Jésus, arrêtez. Nous ne sommes pas là pour élever un homme, nous sommes là pour élever le nom de Jésus, alléluia. Et un homme sans Christ, eh bien, n'est rien. Et cet homme, eh bien, a perdu l'onction parce que, eh bien, il a utilisé ce que Dieu lui avait donné, non pas, eh bien, pour servir au plan de Dieu, mais pour se servir lui-même. Il accomplira même ce que certains peuvent appeler un blasphème, parce qu'il va lui-même utiliser le sacrifice, non pas pour glorifier Dieu, mais pour attirer les hommes à lui. Voyez, je ne rentre pas dans le détail, mais à partir de cela, la royauté lui sera enlevée. Mes frères et sœurs, soyons humbles. Laissons-nous attirer par les choses qui sont humbles. Alléluia. L'Écriture nous dit que... Vous savez, il y a un petit chant qui dit, enfin, David, je ne sais pas si tu t'en souviens... Pour vaincre le mal triomphant, Dieu s'est fait petit enfant. Le Seigneur, il agit avec des choses petites, avec des choses humbles. Restons humbles. Je le dis d'autant plus qu'il y a une tentation dans le monde évangélique. Pendant ces temps où nous avons parlé avec certains responsables, et notamment des responsables nationaux au niveau du CNEF, certains nous ont dit, on a nos entrées dans les cabinets des ministères, etc., certains nous tutoient, ça nous fait quelque chose. Voilà, on a de bonnes relations. Mais ils nous ont dit ceci, il faut que vous sachiez que ce n'est pas le gouvernement qui fait les lois. Ceux qui font les lois, c'est la population. Et le gouvernement enregistre la mentalité de ce monde, de cette société, et en fait des lois. Et même certains députés, ministres, vont à l'encontre de leurs convictions personnelles pour justement plaire au monde. Il dit, mais ça ne sert à rien d'avoir une position influente, ça ne sert à rien du tout. Ce ne sont que des hommes. Nous avons besoin d'être là où nous sommes, des chrétiens, alléluia. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Et mettons de côté cette espèce de tentation en disant ceci, « Ah, s'il y avait un homme, un président, un ministre, ce ne sont que des hommes !» Le Seigneur n'agit pas ainsi, mais il agit à la base, alléluia, avec des hommes et des femmes qui ont fait une vraie rencontre avec le Seigneur, qui ont donné leur vie à Jésus, alléluia. Et lorsque nous sortons de ce cadre-là, eh bien, il y a toutes sortes de choses difficiles qui peuvent arriver et nous perdons l'onction parce que nous nous appuyons non plus sur le Seigneur, mais nous nous appuyons sur nous-mêmes. Nous perdons l'onction parce que nous voulons que ce soit notre vision, nous voulons faire entrer Dieu dans notre vision et nous oublions d'entrer dans la vision de Dieu. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et sœurs. Alléluia. Et que nous puissions dire, mais Seigneur, l'action du Saint-Esprit, elle est là pour me faire entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Parfois, c'est compliqué, c'est à genoux. Ça nous concerne, ça, c'est intime, c'est personnel. Il y a des renoncements. On peut pleurer sur soi-même. Mais à la fin, ce qui est important, c'est que dans notre vie, ce soit le Seigneur qui règne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de revenir. Sinon, on assiste à des défaites. Comment des héros sont-ils tombés? Pourtant, l'arc... Pardon. Ah oui, je vise bien. L'arc, l'épée, le bouclier, eh bien, fonctionnait bien, mais voici, eh bien, sans le Seigneur, tout cet armement, cet équipement qui n'était pas oint, qui n'était pas conduit par le Saint-Esprit, eh bien, tout cela s'est révélé sans force. Combien nous avons besoin d'entretenir nos armes? Alors, comment est-ce qu'on fait pour entretenir son arme? J'ai trouvé trois points, et je vous les donne. La première chose, mes frères et sœurs, c'est de garder un cœur pur. L'Écriture nous parle de David. Vaillant homme, vaillant guerrier. La Bible nous dit que quand Samuel va faire passer devant lui les fils d'Isaïe pour choisir le successeur de Saül, le prochain roi d'Israël, il était impressionné par ce qu'il voyait. Et vous vous souvenez de ce que la Bible nous dit ? Eh bien, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Un homme qui accomplira toutes mes volontés, un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne se voit pas, hein, tout ce qui se passe dans le cœur. Mais pourtant, eh bien, le Seigneur lui le voit. Et je voudrais vous dire ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'on rencontre le Seigneur. Tu as accepté Jésus pour sauveur, tu as été repris dans ton cœur, tu sais que tu es un pécheur, mais tu sais que Dieu t'aime, tu confesses ton péché, tu lui demandes pardon, il t'en libère, alléluia, mais qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de toi ? Il te donne un cœur nouveau, alléluia ! Un cœur dans lequel l'Écriture nous dit, eh bien, l'Esprit de Dieu a écrit dans ton cœur, non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, la volonté de son Dieu, alléluia. Tu es né de nouveau, amen. Et c'est cela, eh bien, que nous voulons garder, ce cœur de chair, ce cœur, eh bien, qui veut faire la volonté du Seigneur, ce cœur, eh bien, transformé par le Saint-Esprit, amen, alléluia. Et ça, c'est pas quelque chose, eh bien, qui concerne l'âge, la condition sociale, ou je ne sais pas quoi, c'est une affaire spirituelle, alléluia. Et que nous puissions continuer de garder, mes frères et sœurs, un cœur touché par le Saint-Esprit. Amen. Un cœur qui est sensible à l'action du Saint-Esprit, un cœur dans lequel nous aimons ce qui est saint, nous aimons ce qui est pur, un cœur qui est entier pour le Seigneur. Alléluia. David est un exemple d'un homme qui a su garder, eh bien, un cœur pur malgré même certaines chutes. Souvenez l'affaire de Bathsheba, c'est terrible quand même. Hein, comment des héros sont-ils tombés ? Alors lui, c'est bien simple, il a refusé le combat. Et il est tombé. Sauf que l'homme selon le cœur de Dieu, il confesse son péché. Quand il est repris par la parole et il accepte d'être relevé. Il y aura des conséquences, comme une écharde dans sa chair. Mais pour lui, ce qui est important, c'est « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia, qu'un esprit de bonne volonté m'anime. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Alléluia. Le deuxième point que je voudrais voir aussi, c'est d'être fraternel. La communion fraternelle. Parce que l'action du Saint-Esprit, elle va dans le sens d'être utile. Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, car il m'a envoyé pour guérir, etc. L'action du Saint-Esprit est utile. Et en préparant ces moments, je me suis rendu compte que l'effusion du Saint-Esprit se produit souvent et très régulièrement dans des rassemblements. Le jour de la Pentecôte, ils sont environ 120. Pierre et Jean prient pour les Samaritains, c'est toute une ville, et là aussi, il y a l'action du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, tous sont baptisés dans le Saint-Esprit. Environ une douzaine à Éphèse, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. À Antioche également, ils cherchent ensemble eh bien, la volonté du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, il nous donne un esprit d'équipe, un esprit de corps. Et il me fait comprendre une chose, c'est que j'ai mes besoins, mais au-delà de mes besoins, il y a les besoins de mon frère, de ma sœur. Alléluia. Amen, alléluia. Et l'Écriture nous dit eh bien, que les intérêts de mon frère, de ma sœur, ils passent avant les miens. Alléluia. Et c'est ça eh bien, qui se passe lorsqu'on est animé par le Saint-Esprit. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit l'Écriture. Alléluia. Et lorsque quelqu'un se met au service eh bien, du Seigneur, le Seigneur va le mettre dans un corps. La notion de corps, c'est pas j'accomplis mon ministère parce que, en fait, et parfois, on a, je l'ai considéré dans un exemple tout à fait récent, telle personne existe par rapport à son ministère. S'il n'exerce plus son ministère, alors il n'est plus rien. Mais c'est pas normal, ça. On existe quand on est dans le corps. On existe lorsqu'on appartient à Jésus, alléluia. On n'existe pas, j'allais dire, au travers d'une action. Mes frères et sœurs, j'espère qu'un jour je serai à la retraite. Enfin, ce n'est pas tout de suite. Hein. Mais je prie le Seigneur pour ne pas être quelqu'un d'amer et de dire « Ah, ce n'est pas moi qui prêche. Et alors, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. J'ai fait mon temps, maintenant je sers le Seigneur d'une autre façon. Alléluia. » Je ne sais pas si je prophétise. Hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire ? Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que nous sommes dans un corps un temps, le Seigneur te confie ceci, un autre temps, le Seigneur te confie cela. Mais ce qui est important, eh bien, c'est que tu ne sois pas une espèce d'électron libre, mais que tu sois un homme, une femme rempli du Saint-Esprit, eh bien, et qui sert le Seigneur au milieu de ses frères et de ses sœurs. Alléluia. Et si nous reprenons l'image biblique que l'Église est un corps, eh bien, tout est utile dans le corps. Mon foie, il se balade pas, j'en ai besoin. Vous voyez, le cœur, les poumons, etc., et tant d'autres organes. On ne sert pas à l'extérieur, mais on sert, eh bien, à l'intérieur. Alléluia. Et je terminerai en donnant ces trois points. Eh bien, avoir un cœur pur, être fraternel, désirer la communion fraternelle, mais également, eh bien, avoir haute estime les Écritures, la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là que le Saint-Esprit accomplit. Vous voyez ? Je reprenais, en préparant ce message, les différentes armes d'Éphésiens 6, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, le casque du salut, la justice, les sandales du zèle, toutes ces choses qui, si vous reprenez le légionnaire romain, souvenez-vous d'Astérix, voyez, eh bien, Paul a repris vraiment l'image de ce soldat-là. Et toutes ces composantes de cette armure sont en relation avec la parole de Dieu, la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La ceinture de la vérité, ta parole est la vérité. L'esprit de l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez, le casque du salut, mais le salut me vient en Christ, et ça m'est communiqué aussi par la parole du Seigneur. Alléluia. Le zèle que me donne, eh bien, l'évangile de paix, mais justement zélé pour proclamer cette parole. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est au service de l'action de la parole de Dieu pour que nous puissions la proclamer. Alléluia. Et avoir une arme aiguisée, c'est important. Je crois que c'est la semaine dernière, le frère Astier reprenait l'exemple du Seigneur qui a été tenté par Jésus dans le désert. Mais le Seigneur, il avait une épée bien effilée. Hein. Il est écrit, clac, il a fait reculer. Hein. La parole de Dieu. Amen. Et combien c'est important, eh bien, d'avoir aussi en nous cette parole. Frère, c'est fastidieux de lire la parole de Dieu. Des fois, il y a des mots que je ne comprends pas. Bon, alors, il y a d'autres traductions. Mais lisez la Bible. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Comment le Saint-Esprit pourra-t-il vous rappeler des choses que vous n'avez pas lues ? Vous avez besoin d'entretenir, nous avons besoin d'entretenir, eh bien, une connaissance, une soif, eh bien, de la parole de Dieu. Et je voudrais te dire ceci, si tu n'as pas soif, c'est que tu n'es pas en bonne santé. Quelqu'un qui aime le Seigneur, il a envie que Jésus lui parle. Mais Seigneur, parle-moi, mais lis la Bible. Tu aimes le Seigneur ? Tu veux qu'il te parle ? Mais lis-la, alléluia ! Mais installe-la sur ton portable, dans le tram, tu la lis, en voiture, tu peux même la lire. Comment vous faites ? Il y a des applis, c'est audible, voilà, vous l'écoutez, alléluia ! Mais l'Écriture, on devrait transpirer la parole de Dieu, alléluia. Ce sont ces armes qui nous permettent de défendre notre foi. Tout à l'heure, je vais employer un petit mot là. L'apologétique. Vous savez ce que c'est ? La défense de la foi. Vous devrez être, Patrick, nous devrions tous être en mesure de défendre notre foi en Jésus-Christ. Je suis surpris, mes frères et sœurs. Et quand nous sommes au stand biblique, de voir des témoins de Jéhovah, ils savent défendre leur foi. Des musulmans, ils savent défendre leur foi. Et nous, est-ce qu'on sait le faire ? Est-ce qu'on sait démontrer par les Écritures que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ? Je voudrais vous dire que les premiers chrétiens savaient le faire. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres encore une fois, en reprenant les prophéties, Paul est démontré par les Écritures que Jésus est le Christ. Et face à tant de logique, de précision d'après la parole de Dieu, les cœurs étaient touchés et visités, alléluia. Oui, Dieu a dû se faire homme. Ouais, mais non, mais on ne peut pas dire que c'est le Fils de Dieu. Si, ça veut dire quoi, le Fils de Dieu ? Dieu se fait homme dans un corps de chair. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de venir dans un corps de chair ? Il a besoin de venir dans un corps de chair pour mourir, parce que sinon Dieu ne peut pas mourir. Mais dans un corps, il meurt. Et il peut donner sa vie en offrande pour nos péchés à la croix. Et il dit, tout est accompli, j'ai tout payé. Et il est parfait, sans péché, sans iniquité. Il est l'agneau de Dieu. Et par le sang qu'il a versé, je suis racheté de la vaine manière de vivre. Alléluia. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est sans péché. Il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Il est le vainqueur à jamais. Gloire à Dieu. Amen. Et je ne dis pas, excusez-moi pour les amis, si Dieu veut, Inch'Allah ou quoi que ce soit, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Ça a été payé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pour tout ça, mes frères et sœurs, il faut lire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit... Moi, je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit ceci, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Je suis convaincu que même au frère, à la sœur, le plus humble, le plus simple, qui peut-être n'est pas allé à l'école, je l'ai vu dans certaines assemblées, mais le Saint-Esprit, il donne une intelligence qui fait trembler les intelligents de ce monde. Alléluia, parce que ça vient de Dieu, alléluia, la puissance de Dieu en action, amen. Si vous avez faites des études, et là je pousse mes enfants et je pousse les jeunes, mais le meilleur instructeur c'est le Saint-Esprit, alléluia, amen. Il va vous faire comprendre la parole de Dieu, et ses armes vont être efficaces pour amener des hommes et des femmes au Seigneur, pour vous permettre de rester dans la vérité, alléluia, de ne pas s'égarer. Peut-être qu'un jour on parlera de ce qui est fausse doctrine, parce que je pense que c'est important. Il y a quelque temps en arrière, il y avait un garçon qui est entré dans le ministère. Moi, j'étais responsable du petit groupe de jeunes dans la petite ville où je me trouvais. J'étais pas du tout pasteur. Et je n'étais pas du tout marié encore. Voilà, et ça allait se faire des années plus tard. Et il y avait deux jeunes filles de ce groupe de jeunes qui étaient au lycée, qui avaient parlé à un garçon qui leur posait des questions. En fait, ce garçon, il vivait dans l'occultisme, il vivait dans le spiritisme depuis très longtemps, et il avait une soif de Dieu. Et il a recherché Dieu comme on recherche des esprits. Et il a commencé à faire une recherche spirituelle. Il s'est mis, alors je ne sais pas trop comment il a fait, mais en tout cas, il m'a expliqué ceci, c'est qu'il a senti Dieu venir. Et instantanément, il a eu peur. Et il m'a dit, mais physiquement, j'étais en train de mourir. Eh oui, l'homme est pécheur, Dieu est saint. De telle sorte qu'il a dit, va-t'en. Et Dieu est parti, la présence de Dieu est partie. Et ce garçon était en recherche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et voici qu'il y a deux petites jeunes filles au lycée, je crois première et terminale, les deux sœurs. Et elle lui dit, mais viens dans notre groupe de jeunes, viens, c'est un samedi, voilà. Et on devait préparer même pour Noël un petit sketch, etc. Bon, bref. Mais alors, le petit groupe de jeunes, sympa comme tout, mais... ce n'est pas la méga church, hein. Voilà, on est tous là. Et moi, là, je prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Et ce jour-là, je ne savais pas qu'il allait être là. Jean 3,16. J'étais tout jeune, hein, donc je connaissais Jean 3,16. Je ne m'aventurais pas dans des choses inconnues. On reste dans le stable. Voilà, hein. Et je parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et je parle de la condition de péché. Et là, on prie, mes frères et sœurs, comme nous, on a pu le prier. Le Seigneur est là. Mais le Seigneur est là, et il ne s'en va pas, mais il reste. Alléluia. Il nous remplit, et il nous apporte pas la mort du jugement, parce qu'on est en Jésus. Alléluia. Et le jugement est ôté. Et là, ce garçon qui est là, mais à sa place... il fond en larmes, et parce que c'est un gars et qu'il a un peu honte de pleurer devant tout le monde, il s'en va dans la cour de l'église. Alors je dis, les jeunes continuent de prier, moi je vais aller le voir. Et alors, on a pu parler ensemble. Il m'a expliqué tout son parcours et je lui ai dit, bah oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a rencontré le Seigneur. Le soir, je me souviens, avec ces jeunes, on avait fait des spaghettis. Voilà, et il disait, ah, ça fait du bien quoi, de manger des spaghettis. Non, mais il y a la paix, là. Je me sens bien. Ce garçon, maintenant, il est serviteur de Dieu. Alléluia, il a rencontré le Seigneur. Mais tout ça, c'est les armes de l'Esprit. Alléluia, c'est la puissance du Saint-Esprit qui convainc. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et je crois que le Seigneur veut se servir de nous. Amen, pour que d'autres hommes, d'autres femmes, ton fils, ta fille, ton mari, ton épouse, peut-être ton grand-père, ta grand-mère, je ne sais quoi, qui, eh bien, rencontrent Jésus. Amen, alléluia, amen. Est-ce que vous êtes heureux d'appartenir à Jésus? Alors on va demander, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, on veut être des guerriers pour toi. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ces moments. Seigneur, dans la simplicité, Seigneur, tu nous parles. Seigneur, mon Dieu, nous sommes là sous ton regard et nous avons compris combien nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pas une méthode qui va nous rendre forts. Seigneur, je me souviens de David qui avait revêtu l'armure de Saül. Seigneur, il pouvait pas avancer. Seigneur, mais il s'est confié, Seigneur, dans les armes, dans les pierres qu'il avait trouvées dans le torrent. Seigneur, il était conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser conduire par ce qui est important pour l'homme, mais pour ce qui a de la valeur pour toi, Seigneur. Et ce qui a de la valeur, eh bien, c'est la foi placée en ton nom, Seigneur. C'est des hommes et des femmes, Seigneur, qui veulent te donner leur cœur, qui veulent voir ta gloire. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous offrir entre tes mains. Et peut-être quelqu'un, Seigneur, retient sa vie. Et Seigneur, le fait de retenir sa vie empêche, eh bien, que la gloire de Dieu se manifeste. Mais Seigneur Jésus, je te prie afin que nos vies soient amenées, Seigneur, comme sur un autel, en sacrifice. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Apporte ta vie entre les mains du Seigneur et dis-lui, Seigneur, je veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour te servir. Je veux plus vivre pour être vu, mais je veux vivre pour que tu sois élevé. Alléluia. Je veux plus vivre pour mes besoins personnels ou mes désirs qui m'éloignent de toi. Mais Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et croyez que le Seigneur va vous rendre fort par les armes de l'Esprit qu'il va mettre dans votre vie. À toi la gloire, Seigneur. Quelques secondes, là, sous le regard de Jésus. Dites-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. S'il y a besoin de demander pardon, nous l'avons tous fait. Et le Seigneur pardonne et relève. Mais il veut te rétablir. Alléluia. Afin que tu ne sois pas vaincu. Et que l'on puisse dire, et qu'on ne dise pas dans ta vie, mais comment ça se fait qu'il est tombé? Comment ça se fait qu'elle est tombée? Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait un cantique funèbre sur toi. Mais il veut qu'il y ait un chant de victoire. Et que l'on puisse dire, mais regarde, il a été tenté, il a été éprouvé. Mais il tient ferme, il reste debout. Comment c'est possible? Mais son Dieu l'a béni, l'a fortifié, l'a rendu fort. Alléluia. Face au péché, face au diable, même dans la tempête. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Toi la gloire. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui veut, on va terminer ainsi, que l'on prie pour lui, pour elle, parce qu'il veut une nouvelle dimension dans sa vie avec Christ. Alléluia. Et si vous voulez, vous levez votre main et on va prier ensemble. Oui, j'ai vu votre main, oui. Il y en a plusieurs qui lèvent leurs mains. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oui, je t'ai vu là, les ados, je vous ai vu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, tu vois tes enfants, Seigneur, qui... Et nous réalisons tous ensemble combien la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est un combat. Et Seigneur, qu'on a à faire face à un adversaire qui est rusé, qui est un serpent. Seigneur, qui... Mon Dieu est capable d'employer toutes sortes de ruses. Nous savons que nous sommes en plus dans un monde, Seigneur, qui nage dans le péché, Seigneur. Mon Dieu, l'atmosphère qu'on respire, c'est, Seigneur, on nage dans cette rébellion, dans cette immoralité. Mais Seigneur, et pourtant, c'est là que tu nous as placés, pour que nous puissions briller, pour que nous puissions, Seigneur, révéler Jésus. Alors Seigneur mon Dieu, tu vois ces bien-aimés qui comprennent le combat, qui veulent rester fidèles, je te demande de les remplir du Saint-Esprit. Et Seigneur mon Dieu, de leur communiquer la force, l'autorité, la puissance, Seigneur, au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que ce ne soit pas simplement une émotion, mais Seigneur, des choses tangibles, réelles, avec des signes, des prodiges, des miracles dans leur vie. Seigneur, au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, on ne veut pas être des mystiques, on ne veut pas être, Seigneur, des gens évaporés. Mais Seigneur, dans le concret de notre vie, tu es capable de nous parler, alléluia. Seigneur, de nous conduire. Et peut-être, Seigneur, mon Dieu, aussi de nous rappeler combien nous avons besoin, Seigneur, de veiller sur notre vie, Seigneur. À toi toute la gloire, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Amen.